Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Cette semaine, dans le Labomatique, nous zoomons sur les travaux d'Adeline Berry, sociologue, qui vient de faire paraître son premier ouvrage aux presses universitaires de Rennes, « Vivre avec le handicap ». Pour cela, elle a mené une enquête d'environ 2 ans auprès d'une vingtaine de personnes qui vivent leur handicap au sein de leur domicile. Adeline Berry, bonjour. Vous êtes postdoctorante en sociologie au sein du laboratoire LABERS, donc le laboratoire d'études et de recherche en sociologie de l'Orient, et qui relève de l'Université de Bretagne occidentale. Je vous reçois aujourd'hui dans le Labomatique suite donc à la parution toute récente de votre premier ouvrage, Vivre avec le handicap, point, l'expérience de l'incapacité motrice majeure. Donc c'est paru aux presses universitaires de Rennes en 2015. Donc il s'agit d'une enquête de sociologie que vous aviez menée lors de votre thèse de doctorat, thèse que vous aviez soutenue en octobre 2013, qui était dirigée aussi par Marcel Calvez. Donc c'est une enquête qui est résolument qualitative, elle a été conduite dans une perspective qu'on appelle en sciences sociales ethnographique, sur laquelle on peut peut-être déjà un peu revenir, puisqu'il me semble que vous avez mené 3 enquêtes distinctes qui vous ont permis de réunir un corpus d'à peu près 22 récits de vie.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu un cursus de formation, si on refait un petit retour en arrière, qui est anthropologique. Donc, c'est vrai que j'ai réalisé cette thèse sous la direction de Marcel Calvez, qui est sociologue. Et donc, logiquement, dans la poursuite de ce cursus en anthropologie, mes méthodes d'enquête, c'est vraiment de la sociologie qualitative, c'est-à-dire rencontrer les gens, passer maximum de temps avec eux, mener des entretiens, mais des entretiens semi-directifs, voire même des entretiens totalement libres, l'objectif étant d'essayer de recueillir l'expérience des personnes, de les formater au minimum, et donc ne pas partir d'une grille d'entretien trop construite ni trop préétablie, pour se laisser surprendre, tout simplement parce que les personnes peuvent nous amener.
Donc c'était 3 enquêtes distinctes que je vous demandais, donc avec 22 récits de vie collectés au final, c'est ça?
Voilà, donc j'ai réalisé sur une période de 2 ans à peu près 3 enquêtes, une première enquête auprès d'un SIAD, le service de soins infirmiers à domicile, et d'un SAD, donc un service d'aide et d'accompagnement à domicile, qui sont des services finalement relativement récent dans le champ du handicap, donc des professionnels qui accompagnent des personnes en situation de handicap vivant chez elles, dans les gestes de la vie quotidienne. Et une 3e enquête que j'ai menée là directement auprès de personnes en situation de handicap, en utilisant tout un protocole basé autour de la vidéo.
La construction de ce corpus, elle a posé quelques questions, me semble-t-il, au niveau de la définition du public, puisque là on parle de personnes en situation de handicap, mais le sous-titre de votre ouvrage précise bien l'expérience de l'incapacité motrice majeure. Donc dans le livre, il s'agit de personnes, je cite, avec des incapacités motrices lourdes, mais au départ il me semble que vous étiez tenté de parler de personnes en situation de grande dépendance motrice. Alors quel a été un peu cet enjeu pour définir le public auquel vous étiez confronté lors de cette enquête ?
C'est vrai qu'il m'a fallu un long temps dans le travail de thèse pour savoir quel terme employer pour parler des personnes avec lesquelles j'ai réalisé ce travail. Aujourd'hui, on emploie de plus en plus l'expression de personnes en situation de handicap, tout simplement dans la volonté de ne pas réduire les personnes à leur déficience, de décoller un petit peu et de considérer que les personnes peuvent présenter une déficience, mais que le handicap, il est créé dans le dialogue qu'a la personne avec son environnement, la société dans laquelle elle évolue. L'inconvénient de cette expression « personne en situation de handicap », c'est que finalement, on ne sait plus trop quel type de difficultés ont ces personnes. Est-ce qu'on parle de personnes en situation de handicap du fait de problèmes auditif, intellectuel, visuel, moteur? Si c'est moteur, est-ce que c'est une personne qui a une hémiparésie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tétraplégique? J'avais ce besoin de clarifier que dès le début de mon propos, on comprenne vraiment à quel public je souhaitais étudier, un public qui est dans une situation corporelle extrême, d'où ma volonté de préciser et de parler d'incapacité motrice majeure. Ces personnes sont au quotidien en situation de handicap dans leur confrontation avec leur environnement de vie, mais je préfère parler de personnes avec des incapacités motrices majeures pour qu'on comprenne bien de quel public il s'agit.
Alors, Pour repréciser encore un peu le contexte de cette recherche, vous parliez tout à l'heure du lien de votre enquête avec des établissements médico-sociaux, vous nous les avez présentés rapidement. On pourrait donc repréciser la nature de cet objet de recherche qui est l'expérience de l'incapacité motrice, et notamment lorsqu'elle est vécue au domicile des personnes. Vous dites dans la première partie de votre ouvrage qu'il s'agit d'une expérience sociale nouvelle. En quoi est-elle nouvelle ? On imagine que c'est en lien avec l'évolution des politiques publiques peut-être et des politiques sociales autour du handicap.
En lien effectivement avec l'évolution des politiques publiques, en lien aussi avec l'évolution des aspirations des personnes. C'est un double mouvement en fait. C'est vrai qu'en France, on est dans une logique de prise en charge du handicap qui pendant toute la seconde moitié du XXe siècle s'est basée sur le principe de l'institution. Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, la réponse était l'institution spécialisée pour la prise en charge des enfants et dans la continuité la prise en charge des adultes. À partir des années 70, on a eu un mouvement d'aspiration qui est venu de mouvements sociaux de personnes en situation de handicap qui ont revendiqué la possibilité d'avoir d'autres modes de vie uniquement que l'institution, pouvoir vivre dans la société. Alors, ces aspirations, elles ont mis du temps à émerger quand même dans notre contexte français, mais elles ont fait leur chemin et elles ont rencontré aussi l'évolution des politiques sociales qui ont mis des moyens financiers pour permettre cette possibilité de vivre à domicile avec un handicap, aussi important puisse-t-il être. Puisqu'aujourd'hui, moi, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé sont des personnes qui peuvent avoir besoin d'une aide humaine à leur côté 24 heures sur 24. Et qui n'ont pu concrétiser un projet de vie à domicile qu'à partir du moment où la société leur en donnait les moyens financiers.
Lorsque vous parlez de revendications au cours des années 70, on peut penser par exemple du côté anglo-saxon, des gens qui se... C'était une revendication pour une vie autonome, me semble-t-il, un mouvement social carrément.
Voilà, effectivement, ce mouvement-là, il a émergé principalement dans les pays anglo-saxons, dans toute une culture et une mouvance en fait, de défense des minorités. Alors minorité, bon, ce terme fait sourire des fois, mais ça pouvait être dans la même mouvance que le mouvement des femmes, des minorités raciales, des minorités sexuelles. Et bien dans cette même dynamique-là, les personnes en situation de handicap ont pu exprimer l'idée assez révolutionnaire à l'époque que le traitement dont elles faisaient, dont elles étaient l'objet par la société, relevait d'une certaine forme de ségrégation, de mise à l'écart, justement, dans une institution, et qu'elles étaient en capacité de vivre autrement, vivre au milieu de tous, à partir du moment où on leur en donnait la possibilité, les moyens.
Alors on va peut-être encore préciser un petit peu plus cet objet de recherche et la perspective surtout. Moi j'aurais voulu qu'on précise un peu ça pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers des sciences sociales. Donc une perspective qui est un peu particulière dans la mesure où vous faites une proposition dans ce livre. C'est bien de questionner l'expérience de l'incapacité motrice mais en articulant deux types de préoccupations sociologiques. Donc d'une part vous traitez des frontières du corps et d'autre part vous traitez des frontières de l'identité. Ce questionnement, il vous a conduit à vous inscrire dans une perspective en sociologie qu'on va peut-être appeler sociologie un peu pragmatique, malgré que le terme soit un peu aujourd'hui questionné par les sociologues, mais qui considère finalement que le corps et l'identité ne sont pas forcément des réalités stables, mais qui vont se construire dans leur rapport avec des entités humaines et non humaines. Donc ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser un peu cette perspective sociologique ?
Alors disons que moi, mon travail il s'inscrit dans une perspective phénoménologique qui consiste à dire que l'on construit notre représentation, notre vision du monde, notre réalité à partir d'un endroit qui est notre corps. Et c'est la manière dont nous allons nous mouvoir, utiliser notre corps, faire interagir celui-ci avec notre environnement qui va nous forger peu à peu notre vision de ce que l'on est, de ce que l'on est en capacité de faire et de la réalité qui nous environne. Et à partir de cette question-là, parce que la phénoménologie ne s'intéresse pas spécifiquement au handicap, mais moi j'avais envie de réfléchir justement comment on se construit soi dans son entité, dans son rapport aux autres, comment on construit la vision de notre réalité quand on a des incapacités motrices majeures, quand on est tétraplégique, quand on ne peut pas bouger, même ne serait-ce que son petit doigt. Et que justement, pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir interagir avec l'autre et dans son environnement, on a besoin de l'aide constante, soit d'aide technique, un fauteuil roulant, un contrôle d'environnement pour pouvoir s'exprimer, une synthèse vocale, ou qu'on a besoin de l'aide d'auxiliaires de vie, d'aides-soignantes, d'infirmiers au quotidien. Comment construit-on son identité et sa perception du monde quand on ne peut jamais être seul ?
Donc on reviendra un peu sur cette spécificité phénoménologique, hein, quelque part, qui s'est progressivement introduite, hein, dans l'analyse du handicap, qui consiste à considérer justement que les aides non humaines participent de l'humanité de la personne. C'est une belle théorie. Moi, j'aimerais d'abord qu'on revienne peut-être sur les personnes que vous avez rencontrées, puisque vous nous disiez que les politiques publiques avaient évolué dans le sens d'une possibilité aujourd'hui de vivre son handicap à domicile. Mais est-ce que chez les personnes que vous avez rencontrées lors de votre enquête, il s'agissait tout de même peut-être d'un certain combat de vivre son handicap à domicile ?
Alors, c'est certain. C'est vrai, dans le panel de personnes que j'ai rencontrées, j'ai volontairement choisi des personnes plus ou moins jeunes, des personnes qui vivaient en situation de handicap à domicile depuis 20 ans, 30 ans, et des jeunes qui sortaient tout juste du domicile familial ou d'une institution, et pour lesquels ça représentait une réalité. Alors, c'est vrai, si on regarde 20 ans en arrière, dans les premières personnes qui se sont installées à domicile avec un handicap moteur, avant même que la loi et les dispositifs ne permettent vraiment un financement garanti, là, on était vraiment dans l'idée d'un combat, dans l'idée de délivrer un message à la société qu'une autre forme de vie à domicile, enfin une autre forme de vie tout court, était possible pour les personnes en situation de handicap. Les années passant, les dispositifs médico-sociaux, institutionnels évoluant, c'est de moins en moins devenu un combat et de plus en plus un acquis et une évidence pour les jeunes générations. Exception faite, peut-être encore des personnes vraiment les plus dépendantes. Je pense notamment à des jeunes personnes atteintes de pathologies neuromusculaires, comme la myopathie, dont les situations de dépendance sont vraiment extrêmes, et pour lesquelles on reste quand même dans l'idée d'un combat, puisque bien que la loi ait évolué et permette un financement des aides humaines 24 heures sur 24, rien n'est jamais acquis, et vivre à domicile reste toujours un équilibre sur le fil du rasoir.
La particularité de votre travail, finalement, c'est de questionner aussi l'intimité, finalement, des personnes, dans la mesure où, on le rappelait tout à l'heure, hein, il s'agit de questionner doublement, hein, donc les frontières du corps et les frontières de l'identité, mais donc au domicile, ce qui vous conduit à parler, finalement, de l'intimité. Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui ressortait de cette enquête, puisque vous développez longuement autour d'un personnage que vous nommez dans le livre Étienne Canet. Est-ce qu'il s'agissait de voir comment se négociaient au quotidien ces frontières de l'intimité ?
Alors voilà, ma première question, elle a été de savoir comment faisaient les personnes qui avaient besoin d'une aide humaine, je le disais, pour tous les gestes de la vie quotidienne, pour faire sa toilette, assurer son hygiène corporelle. Comment parvient-on ou non à préserver une intimité ? Et ce que j'ai observé, c'est que finalement, il y avait autant d'individus que de manière de définir ce qu'était ou non l'intimité, et que certaines personnes que j'ai rencontrées continuent au quotidien de voir leur intimité malmenée par le fait d'avoir besoin d'une aide extérieure pour leur hygiène corporelle, tandis que pour d'autres, il y a un travail de reconstruction de ce que serait l'intimité, et on va déplacer cette intimité à d'autres endroits, à d'autres moments que ceux de la toilette, par exemple, qui sont dans notre quotidien à nous, quand on n'est pas en situation de handicap, les summums de l'intimité. Donc il y a vraiment une créativité, en fait, des individus dans une redéfinition de ce qu'est ou non l'intime, en fait.
Ça vous conduit à emprunter d'autres notions théoriques, hein, que la sociologie connaît plutôt bien, hein, donc les arts de faire, là vous parlez de créativité, on pense aussi par exemple à Hans Joas qui parlait de créativité de l'agir, donc on voit bien où on se situe. Moi j'aurais souhaité qu'on s'attarde peut-être sur le cas Étienne Canet, puisque bon, c'est un prénom et un nom d'emprunt que vous avez choisi. Pourquoi cette personne prend autant de pages finalement dans ce livre, alors que vous avez recueilli un peu plus d'une vingtaine de récits de vie ?
Alors, ça aurait très bien pu être le récit d'une autre personne, hein. Je ne considère pas que c'est cette personne que j'ai rebaptisée Étienne quelque chose de particulièrement singulier. Je voulais juste donner un petit peu de matière, raconter une histoire dans le détail pour qu'on puisse, enfin, pour essayer de donner au lecteur la possibilité de comprendre comment se recrée justement cette intimité, comment les individus vont retricoter au quotidien leur relation avec les aides humaines, leur entourage familial, les aides techniques qu'elles utilisent dans leur quotidien. Je voulais donner à voir cette matière un petit peu créative, et c'est pour ça que j'ai choisi de développer, je ne sais plus pendant quelle place ça prend exactement dans mon livre, mais voilà, autour d'un exemple, mais ça aurait pu être, je pense, celui d'une autre personne. si on observe dans le détail comment fonctionnent les individus, il y a toujours quelque chose de très riche qui se développe. Quand bien même j'ai travaillé avec des personnes dont les ressources cognitives pouvaient être un peu plus altérées du fait du handicap ou de la maladie, chez ces personnes-là, il y a la même créativité qui s'exprime autrement, mais qu'on retrouve également. Donc ça aurait très bien pu être une autre situation.
Oui, donc c'était par souci d'être comprise et d'exemplifier un peu votre propos. On ne peut pas vous taxer d'un manque méthodologique, de représentativité, etc.
J'espère pas. Ou alors je l'assume.
Alors, vous parvenez aussi à montrer dans cet ouvrage, hein, plutôt de façon admirable, que l'expérience du handicap au domicile, c'est jamais une affaire individuelle, mais bien collective, donc sociale. Moi, j'aurais aimé savoir comment ça se traduisait au quotidien, puisque on imagine que les proches vont contribuer fortement, hein, à la construction de cette intimité partagée, finalement. Qu'en est-il de la présence des professionnels du médical ou du paramédical, par exemple ? Comment ça se traduit au quotidien ? C'est peut-être des tensions, je ne sais pas.
Alors, c'est vrai que ce qui m'intéressait à travailler avec des personnes qui ont des incapacités motrices majeures, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des situations extrêmes. La majorité des personnes que j'ai accompagnées faisaient appel, même si elles vivaient en famille avec leurs parents ou leurs proches ou leurs enfants, faisaient appel à des professionnels extérieurs. Donc, notamment un service d'auxiliaire de vie, ce qui pouvait générer plus de 40 intervenants différents dans le mois à se succéder pour les aider au quotidien à se préparer à manger, s'habiller, se déplacer, se laver. S'ajouter à cela des intervenants libéraux, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des infirmières, ou le recours à un service de soins infirmiers à domicile, générant là aussi le passage de peut-être une dizaine de professionnels différents. Donc ce qui m'intéressait de voir, c'est comment faisaient les personnes justement pour gérer cette multiplicité d'intervenants qui pour certains n'interviennent que quelques heures par jour, mais qui pour d'autres se succèdent en permanence au domicile. Comment ne pas être totalement éclaté dans cette succession quasiment ininterrompue de professionnels à pénétrer dans l'intimité du logement, dans l'intimité familiale et dans l'intimité du corps.
Ça, c'est ce qui vous a conduit aussi dans ce livre à parler de préservation de soi, justement pour désigner ce processus par lequel on parvient à se prémunir un peu de l'intrusion, hein, de différents professionnels. Vous parlez notamment, il me semble, de stratégies, hein, particulières mises en place par les personnes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en toucher un petit mot pour qu'on ait bien en tête ce dont il s'agit ?
Alors, c'est vrai que justement, ce qui m'intéressait, je parlais de créativité, c'est voir les différents types de stratégies que les personnes vont développer, puisque personne ne leur a appris à fonctionner comme ça. C'est elles-mêmes, au quotidien, à partir de leur expérience, qu'elles vont développer des stratégies plus ou moins efficientes, mais en tout cas qui peuvent être de différentes natures pour tenter de se préserver soi de cet éclatement. Et protéger un tant soit peu son intimité. Alors, ces stratégies, pour certaines personnes, elles vont être basées sur un contrôle. Contrôler au maximum les intervenants, qui vient, ce que la personne a le droit de faire, ce qu'elle a le droit de toucher de l'environnement, ce qu'elle a le droit de toucher de mon corps, de ce qu'elle a le droit de dire. Pour d'autres personnes, ces stratégies ne sont pas du tout basées sur le contrôle. Ça va être à l'inverse. Faire en sorte que les professionnels qui interviennent chez moi ne soient plus des professionnels, qu'ils intègrent mon cercle amical, pour certaines personnes mon cercle familial, puisqu'il y a quand même de nombreuses personnes en situation de handicap qui peuvent se mettre en couple avec des professionnels qui intervenaient auparavant auprès d'eux. Bref, qu'elles intègrent mon intimité parce que je le souhaite, et de cette manière-là, elles ne la transgressent plus, parce que c'est moi qui ai choisi de les mettre de plein pied dans mon intimité. Et puis, il y a des personnes aussi qui, ces stratégies-là peuvent aussi ne pas être efficientes et être totalement malmenées par cette succession de professionnels à intervenir.
Ça, c'est la typologie que vous développez dans le dernier chapitre, c'est ça ?
Voilà, ça fait un petit peu référence à ça. Alors, c'est vrai qu'une typologie n'a pas pour objectif de mettre les personnes dans les bonnes petites cases, mais d'aider un petit peu à réfléchir, même si aucune des personnes que je n'ai rencontrées ne présente toutes les caractéristiques de chacun des trois types que je présente. C'est une reconstruction pour essayer de rendre un petit peu compréhensible des processus mis en place par les personnes. Et effectivement, j'ai dégagé trois types, trois manières de faire au quotidien avec le handicap, que j'ai nommé Une vie sous contrôle, le corps comme une performance et une solitude entourée.
Alors, pour bien faire comprendre à nos auditeurs, c'est qu'une typologie, vous le dites, hein, c'est une reconstruction de la part du chercheur. Elle n'a pas prétention à épuiser le réel. Elle se crée à partir de variables que le chercheur estime pertinentes, hein, pour définir un peu ces trois profils. Alors, vous avez choisi trois critères. Donc, le niveau d'autonomie des personnes, la nature de leur relation avec les aides humaines et la dimension plus ou moins collective de leur expérience du handicap. Donc c'est vraiment à partir de ces trois grandes variables que vous construisez ces profils-là et vous ordonnez un peu le réel finalement.
Oui, voilà. Oui. Alors par niveau d'autonomie, c'est bien sûr pas l'autonomie fonctionnelle, mais les capacités d'autodétermination des personnes, de prendre en main, entre guillemets, les décisions qui les concernent. Et là, c'est vrai qu'on va observer que le curseur peut être placé de manière très variable en fonction des personnes, avec des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, peuvent être dans un contrôle total de leur corps et de leur environnement et des décisions relatives à leur handicap, et à l'extrême opposé, des personnes qui vont déléguer la totalité des prises de décisions relatives à leur quotidien aux professionnels les entourant.
C'est comme lorsque vous dites que, par exemple, vous prenez en compte la dimension plus ou moins collective de l'expérience du handicap. On imagine que selon les déficiences que l'on considère, le niveau, par exemple, le nombre de professionnels ne sera pas forcément le même à intervenir dans le domicile. C'est ça que vous voulez entendre par là ?
Non, alors c'est pas forcément ça, parce que finalement, le niveau d'autonomie fonctionnelle peut être assez dépendant du nombre de professionnels à intervenir. Il y a des personnes qui sont très dépendantes avec une pathologie neuromusculaire très avancée et qui vont recourir à des types de professionnels, notamment à l'emploi direct par exemple, qui va leur permettre finalement de n'avoir que 4 ou 5 intervenants à se succéder dans le mois. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un peut avoir une autonomie fonctionnelle plus importante, mais faire appel à un service d'auxiliaire de vie où il va se retrouver, comme je disais tout à l'heure, avec plus de 40 intervenants différents. Donc ça c'est assez indépendant. L'expérience collective, ce que je voulais exprimer par là, c'est que certaines personnes en situation de handicap vont tellement réussir à impliquer leurs intervenants professionnels que les difficultés qui se posent à eux dans leur quotidien, les professionnels considèrent que c'est aussi leur difficulté. Le fauteuil est cassé, c'est autant la difficulté de l'aide-soignante qui va se lancer corps et âme dans la recherche d'une solution que de la personne en situation de handicap. À l'inverse, il y a des personnes qui ne vont pas du tout arriver à mettre en place cette implication des professionnels auprès d'eux et qui vont se retrouver résolument seules face aux difficultés que le handicap peut leur poser au quotidien.
Alors cette typologie, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le fait qu'elle mette l'accent sur la diversité des profils et des expériences. J'aimerais peut-être qu'en guise d'ouverture, on puisse prendre un peu peut-être de hauteur. Il me semble que vous avez été soutenu dans le cadre de cette thèse par la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, donc c'est la CNSA. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme prolongement à partir de ce travail de thèse de doctorat, sachant que vous réussissez à mettre vraiment en évidence la variété des profils qui existent aujourd'hui, comment on pourrait peut-être penser une action peut-être politique auprès de ces personnes ?
Et c'est une bien bonne question. Alors c'est vrai que la CNSA a lancé, je réponds un petit peu à côté mais pour revenir après, la CNSA a lancé il y a donc déjà plusieurs années de ça, un appel blanc recherche sur le handicap et la perte d'autonomie, tout simplement parce que c'est vrai que le handicap finalement c'est un secteur assez récent pour les sciences sociales qui s'y sont longtemps peut intéresser le déléguant à d'autres disciplines plutôt médicales ou psychologiques. Donc il y avait ce besoin, je pense, de recherche pour mieux comprendre ce qu'est le handicap et surtout les différentes facettes du handicap en fonction des déficiences des personnes, mais aussi, c'est ce que j'ai voulu montrer, de leur environnement de vie. C'est pour ça que moi je me suis intéressée plus spécifiquement au domicile, les recherches étant le plus souvent en milieu institutionnel, en sciences sociales. Donc c'est vrai que moi, un des axes de poursuite que j'ai dans mes travaux actuels, c'est de continuer à travailler, c'est peut-être ce qui m'a interpellée le plus aussi dans cette recherche, même si j'en ai peu parlé là, sur l'implication affective, parfois extrêmement importante des professionnels, dans le cadre du travail à domicile. Une implication qui peut avoir des effets bénéfiques, mais aussi parfois des effets délétères. pour les professionnels eux-mêmes qui peuvent se mettre parfois en danger, mais pour les personnes qu'elles accompagnent aussi, puisque ce que j'ai pu observer, c'est que par moment, il pouvait y avoir des relations d'emprise assez importantes à se développer au domicile, puisqu'on est assez seul. Il n'y a plus ce regard de l'institution, regard qui est parfois perçu comme totalitaire, mais qui peut être aussi protecteur. Et c'est vrai que dans la suite de mes travaux, que ce soit auprès du public des personnes en situation de handicap ou auprès d'autres publics, comme les personnes âgées par exemple, je pense qu'il y a une vraie réflexion à développer sur justement ces métiers du domicile et de ce qui se passe dans cette intimité du domicile où il n'y a plus que dans un face-à-face une personne en situation de vulnérabilité. Là, on parlait des personnes en situation de handicap, mais ça peut être d'autres publics, et des professionnels parfois peu formés, parfois pas du tout formés, et qui sont dans un rapport qui peut s'inscrire dans une certaine domination avec les personnes qu'elles accompagnent.
Donc c'est moins centrer la réflexion exclusivement sur les personnes en situation de handicap que la relation d'aide en fait qui les unit avec un personnel soignant, paramédical, oui, ou tout ce qu'on veut, quoi.
Oui, parce que moi c'est vrai que dans ma manière d'aborder le handicap, j'ai toujours eu ce souhait, parce que je trouve que c'est vraiment une dimension intéressante, d'utiliser le handicap comme un analyseur pour essayer de réfléchir à d'autres problématiques sociales plus larges. Mais que le handicap, surtout quand on travaille avec des personnes très dépendantes, met en exergue en fait des problématiques qui existent ailleurs, mais qui sont moins frappantes, puisque moins amplifiées que dans ces situations, comme je disais, qui sont extrêmes, quoi.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
Eh bien merci Adeline Berry, je rappelle le titre de cet ouvrage, Vivre avec le handicap, point, l'expérience de l'incapacité motrice majeure, et c'est paru aux Presses universitaires de Rennes en 2015. Merci à vous.
Merci.
C'était le Labomatique sur Radio Campus Rennes. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.